Bonjour à tous. Je vous invite tout de suite à faire une lecture un petit peu conséquente dans l'évangile de Matthieu. Et on commence au chapitre 19, verset 16. Matthieu, chapitre 19, verset 16. Je lis dans la Nouvelle Bible Seconde. Alors un homme vint lui demander, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé tout cela. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, en entendant cela, restèrent complètement ébahis. Ils se demandèrent, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Pour les humains, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre lui dit, « Nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur dit, « Amen, je vous le dis à vous qui m'avez suivi. À la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embauchait des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez dans la vigne, vous aussi, je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième, puis vers la neuvième heure, et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez dans la vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun un denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dire « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. » Jusque-là, c'était la parole de Dieu. Alors, pour comprendre cette parabole, il a fallu que je commence la lecture un petit peu plus haut. D'ailleurs, j'aurais pu commencer encore plus haut. Parce qu'il faut la replacer dans son contexte. elle est prise en sandwich, ça s'appelle une inclusion, entre la répétition de cette même phrase qu'on trouve « les premiers seront derniers » et vice-versa. Cette parabole sert donc à expliquer cette parole « les premiers seront derniers », parole que même Céline Dion a repris à son compte. Le verset 30 du chapitre 19 clôture une conversation entre Jésus et les disciples qui est elle-même la conséquence de cette fameuse rencontre avec le jeune homme riche. Et l'épisode d'avant, c'était Jésus avec les petits-enfants, vous savez, qui les accueillent. Et ça paraît dur, dans cette rencontre avec le jeune homme riche, où il y a quelqu'un qui semble plein de zèle pour venir servir le Seigneur, et la manière dont le Seigneur le laisse partir est un peu troublante, voire choquante. Alors cette parabole, elle sert à répondre à toute une série de questions qui sont posées d'abord par le jeune homme riche. Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Et que me manque-t-il encore? Bonne question, hein? Et puis les questions des disciples qui sont ébahis, nous dit le texte. Qui donc peut être sauvé? Et quand sera-t-il pour nous? J'espère que ça vous intéresse. Ce à quoi Jésus répond, « Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, et quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre, juste en passant, il n'est pas question de quitter sa femme, à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. » Et c'est alors que Jésus commence à raconter cette histoire. « Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable, un maître de maison. » Jésus veut donc nous expliquer l'économie du règne des cieux, l'expliquer à ceux qui le suivent ou qui voudraient le suivre. Et en fait, suivre, c'est pour moi la définition d'un disciple. Et l'étude de cette parabole nous oblige à examiner la manière dont nous servons le maître qui nous invite à travailler dans sa vigne. Alors, juste avant de rentrer dans la parabole, deux points rapides qui concernent le service en général et qui sont plutôt des avertissements. Le service dans l'Église doit se comprendre dans l'économie du don. Christ lui-même, don du Père. Christ qui fait des dons à son Église pour le bien de l'ensemble du corps. Et donc, nous sommes chacun, pour notre part, des dons qui sont faits à l'Église et nous sommes appelés à mettre nos dons au profit du corps, les dons que nous avons premièrement reçus. En tant que membres de ce corps, quelles que soient nos responsabilités, nous sommes des intendants de ce que Dieu donne à son Église, généreusement. Et sur ce point, à ce niveau-là, c'est la fidélité qui est évaluée. Il y a deux paraboles qui s'y rapportent. Dieu nous appelle à être fidèles avec ce qu'il nous a confié, ainsi qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, dit Paul aux Corinthiens, des intendants chargés des secrets de Dieu. En fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Et donc, ces deux paraboles, c'est la parabole des talents. Vous savez que les talents, chacun reçoit un nombre différent de sacs en fonction de ses capacités. Et puis, ils sont jugés bons et fidèles ou méchants et paresseux. Et puis, il y a aussi la parabole des mines, où chacun reçoit une mine, mais où la multiplication est différente. Et là encore, ce n'est pas la quantité qui est louée, mais la fidélité. Donc dans le service, notre motivation, c'est l'amour. Ah, ça n'a pas changé. Voilà. Et là, c'est aussi un avertissement, parce que, on l'a lu d'ailleurs ce matin pendant la présidence, notre amour est une réponse à l'amour de Dieu. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Prenez l'image d'un tube de dentifrice. Négliger ce point-là, c'est s'exposer à une grande déconvenue. Et fameux chapitre sur les dons, chapitre 12, est suivi par un fameux fameux chapitre qui ne marche pas que pour les mariages, hein, le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Donc la conclusion du chapitre 12, c'est « aspirer aux dons les meilleurs », n'est-ce pas ? Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et il fait une liste de 5 dons, les dons surnaturels, hein, les langues, des humains et des anges, toute la connaissance, parler en prophète, les mystères, la foi, quand je pourrais transporter des montagnes, la générosité pour donner tous mes biens, et puis même donner ma vie jusqu'au martyr. Il y a quelque chose quand même qui est dit solennellement, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à... Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi ça me fait juste me penser que ça vaut le coup de réfléchir de pourquoi. Et c'est Don Carson qui traduit cela comme ça. Voilà, ça c'est mon passé ingénieur, ça me parle. 5 moins 1 égale 0. 0. Il y avait mon petit-fils à côté de moi ce matin, pendant que je relisais mes notes, il me dit « Papy, c'est faux !» Je lui dis « Je vais t'expliquer pourquoi c'est vrai !» Et voilà donc que nous arrivons à cette fameuse parabole. Alors j'aime bien cette parabole parce que pour le coup ça rentre dans un classeur. Mais vous avez remarqué quand même la persévérance de ce maître qui va à 5 reprises chercher des ouvriers pour les embaucher. On ne sait pas s'il est à court de main-d'œuvre, mais il sort, ressort, re-ressort tout au long de la journée à la recherche d'ouvriers pour s'assurer qu'aucun d'entre eux ne va rester sans rien faire. On peut se poser la question, pourquoi se donner tant de peine pour aller chercher des ouvriers? Des ouvriers qui, à la fin, vont travailler juste une heure. Ça n'a pas quand même changé grand-chose en termes de travail accompli. Mais la manière dont il va les rémunérer nous montre qu'il n'a pas vraiment de souci d'argent. Ce qui semble primer, être le plus important pour lui, c'est la manière dont il gère son, la manière dont il gère son domaine, c'est plutôt ce qui l'intéresse, c'est le sort de ses ouvriers. La motivation n'est franchement pas économique quand il embauche avec ses horaires décalés pour la même mission. Alors au premier, il promet un denier, ensuite aux 3 autres, ce qui est juste, et puis au dernier, il dit rien. Voilà. C'est au moment de la paye que les choses se compliquent et que les motivations sont révélées. Parce que, clairement, le maître de la maison ne veut pas seulement donner le même salaire à tous les ouvriers, quel que soit le temps passé dans la vigne. Mais il veut faire savoir aux ouvriers de la première heure qu'il va donner le même salaire aux ouvriers qu'aux ouvriers de la dernière heure. Parce que s'il avait tout simplement demandé à son intendant de payer les premiers en premier, ben ils seraient partis au café avec leur denier, personne n'aurait rien su du reste, et on aurait simplement conclu que ben, les derniers valent autant que les premiers. Mais le maître, on l'a déjà dit, ne raisonne pas sur un plan économique, d'un point de vue purement comptable, parce que si on raisonne en taux horaire, la situation est profondément injuste. Les derniers ont bénéficié d'un taux horaire 12 fois supérieur à celui des premiers. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont un passé syndicaliste là, mais il y a de quoi aller au prud'homme, hein. Le maître, en fait, a agi sciemment pour susciter des réactions à cause de l'injustice que produit sa bonté. Vous imaginez la scène. En voyant l'intendant donner un denier à ceux qui ont travaillé seulement une heure. Vous avez vu le sourire déjà là ? Parce que ceux qui ont travaillé 12 heures, ils se disent « J'ai touché le gros lot !» C'était l'endroit où il fallait venir travailler aujourd'hui, n'est-ce pas ? À ce tarif-là, je vais gagner en un jour l'équivalent de 2 semaines de travail. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est insupportable pour eux. Celui qui a travaillé moins reçoivent autant que celui qui a travaillé toute la journée. Il le dit bien, hein ? Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous. Alors du coup, on commence à comprendre un petit peu mieux qui sont ces premiers auxquels s'adresse cette parabole. Ce sont ceux qui pensent, à l'image de ce jeune homme riche, que la stricte observation de la loi peut les qualifier. Ceux qui pensent que faire est suffisant pour mériter la vie éternelle. Ceux qui mettent leur confiance dans la longueur de leur service, en pensant que celui-ci les rendra supérieurs. Clairement, ce sont les juifs religieux qui sont visés, et personne d'entre nous ce matin. Alors, une petite pensée quand même pour ceux qui ont travaillé qu'une heure et qui n'ont donc pas mérité leur salaire. Vous avez remarqué, aucun ne se plaint d'avoir trop reçu. Mais ils doivent quand même être profondément surpris et reconnaissants de la générosité de ce maître qui est venu les chercher au dernier moment afin de leur donner suffisamment pour vivre en ayant travaillé seulement une heure. Petite anecdote de ma vie, et pendant un certain temps, pas très longtemps, mais un peu, j'ai travaillé en tant que bagagiste dans un hôtel 4 étoiles à Nîmes. Et donc, voilà, on a un salaire, qu'est-ce qui est, le SMIC hôtelier, mais on a des pourboires. Alors, c'était encore les francs à l'époque, et généralement, le tarif, c'était 10 francs. Donc, vous portiez une valise, vous mettiez la voiture au garage, et vous aviez 10 francs. Bon, évidemment, hein, on doublait le salaire avec ça. Et puis, à deux occasions, j'ai eu 500 francs. Bon, la première fois, c'était deux grosses Mercedes avec chauffeur, la nounou, des gens, voilà. Et j'ai dit, bon, ceux-là, ils ont pris deux suites, 500 balles, tu dis rien. La deuxième fois, c'était des Italiens, et je pense qu'ils ont confondu les lires, tu vois, il fallait 5000 lires pour payer une baguette, et ils m'ont donné un billet de 500 balles, et je l'ai pris quand même. Il y a une histoire comme ça aux Jeux Olympiques de 2002 à Salt Lake City. Un certain Stephen Bradbury. En quart de finale, il est dernier. Non, il est troisième. Et il gagne sa place en demi parce qu'il y a celui qui est arrivé troisième, justement, qui est disqualifié pour un contact illicite. Lors de la demi-finale, il est complètement à l'arrière lorsque les trois compétiteurs qui sont devant lui tombent. Et ça lui permet d'accéder à la finale. Et voilà ce qu'il dit sur la finale. « Je me suis retrouvé dernier à deux tours de l'arrivée », raconte-t-il. « Puis le chaos est arrivé. Ils sont tous tombés. Compte tenu de la façon dont j'ai remporté cette course, je n'allais pas sauter dans tous les sens. J'ai juste écarté les bras. Incrédule. » Et oui, ça nous arrive de recevoir ce que nous ne méritons pas. Et c'est bien la définition de la grâce, n'est-ce pas ? De recevoir ce que l'on ne mérite pas. Et la grâce, par nature, est injuste. C'est fondamental. Et l'ignorer, c'est passer à côté de l'Évangile. Il n'y a rien de méritoire, rien qui puisse être mis à notre crédit en matière de salut ou de position devant Dieu. Tout est grâce en Jésus-Christ. Et c'est à lui seul que revient tout le mérite et toute la gloire, celui qui nous a tout donné. Et la réaction des premiers révèle une incompréhension de la grâce. Dieu veut donner à tous. Et pour cela, il étend sa bonté envers tous, indépendamment de nos œuvres. La grâce n'est pas proportionnelle. Elle n'entre pas dans un classeur Excel. Cette parabole, injuste d'un point de vue humain, nous permet maintenant d'évaluer notre compréhension et notre appréciation de la grâce. Parce que n'oublions pas, pour qu'il y ait grâce, il faut qu'il y ait offense, n'est-ce pas ? Si les ouvriers avaient tous commencé à la même heure, ben, n'y a pas de parabole. Mais ça, c'est le monde des bisounours. Est-ce que nous savons nous réjouir de ce que notre frère, de ce que notre sœur est au bénéfice de cette même faveur alors qu'elle en fait beaucoup moins que nous? Et pour nous qui avons travaillé depuis longtemps, reconnaissons-nous comme un privilège d'avoir travaillé pour ce maître bon et généreux? Ou sommes-nous devenus amers en nous comparant parce que nous pensons que nous valons mieux? Nous avons compris la grâce de Dieu et nous demeurons dans cette grâce lorsque nous pouvons nous réjouir du fait que celui qui a travaillé moins reçoit autant que nous qui avons travaillé plus. Il y a beaucoup qui sont passés par l'épreuve du bac, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu n'as pas le bac en France, même pas la peine de penser avoir un avenir. Alors vous connaissez ce jour fatidique où vous allez voir les résultats du bac, n'est-ce pas? Source d'angoisse, est-ce que je l'ai? Alors il y a les pessimistes qui commencent par regarder la liste des recalés et puis la bonne surprise, toi. Mais il y a cet élève qui n'a jamais rien foutu de l'année, qui a séché la moitié des cours, qui a pompé sur toi. Et il a une mention. Et toi qui as bossé des heures, tu as juste la moyenne. Et tu es tellement content pour lui. Dès que nous servons pour autre chose que la joie de servir un bon maître, notre joie se change en amertume. Celui qui nous appelle à travailler dans sa vigne est plus préoccupé par notre relation avec lui que par la quantité de travail accompli. Vous savez, c'est le problème du fils aîné hein, dans cette fameuse parabole du fils perdu. La première fois qu'il désobéit à son père, qui a réhabilité le fils qui était parti. Et il lui dit, ça fait tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. C'est intolérable que tu puisses pardonner à celui qui a dilapidé la formule. Et le père répond, toi mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à toi est à moi. Alors on aime bien affirmer, n'est-ce pas, hein, dans nos églises, que nous sommes sauvés par la grâce seule. Mais les longues heures passées à travailler dans la vigne peuvent modifier notre appréciation de cette grâce et du même coup nous inciter à nous croire meilleurs, plus méritants que ceux qui viennent d'arriver. Alors je reconnais que c'est un problème qui est croissant avec l'âge. Alors comme je fais franchement maintenant partie des vieux, j'assume complètement. C'est pas le problème du jeune converti, ça. Ce qui est triste dans cette parabole, c'est qu'il va y avoir des conséquences sur le relationnel. Notre compréhension de la grâce et de la bonté de Dieu influence effectivement nos relations humaines. Parce que cette distorsion de la grâce, eh bien, elle va engendrer à l'égard de notre prochain des mauvais sentiments. Et elle distord aussi notre compréhension du maître. Il est dit dans le texte qu'il commence à maugréer contre le maître de maison. Alors je vous propose un petit test, alors c'est un test que j'ai fabriqué, c'est un auto-test, ça vaut ce que ça vaut, mais ouais, ça marche, dans mon cas ça marche bien. Voilà, t'es en train de réfléchir à tout ce que tu fais, toi. C'est la semaine, le début de la semaine, là, c'est le conseil diaconal. Hein? Comment on va pouvoir faire avec tout ce qu'il y a à faire là, hein? Et puis quand même, il y a du monde dans l'église, hein? En fait, il y a un tel qui devrait faire ça et qui ne le font pas, n'est-ce pas? Et oui, là, ça commence à gentiment déraper quand effectivement, je vois que je pense trop à ce que les autres devraient faire. Le problème, c'est que ça va empirer. Et la deuxième étape, c'est tu commences à prier pour que Dieu leur révèle. Et là, tu sous-entends que finalement, Dieu n'est pas tout à fait à la hauteur. Hein? Donc, voilà, non seulement ils devraient faire, enfin, ces gens devraient en faire plus, hein, parce que quand même, nous, on est débordés, quoi. Logique. Mais Dieu, quand même, tu peux pas un peu les... Et on prie pour ça, hein? Ça vous est jamais arrivé, je parle juste pour moi. Et puis, ça finit vraiment mal avec ce que j'appelle le syndrome de l'œil mauvais. Vois-tu d'un mauvais œil? Et alors là, toi, quand tu es sur cette pente-là, moi je sais, là, je sais quand est-ce qu'il faut que je m'arrête. Hein. S'arrêter. Alors, il y a un antidote à ce déclassement, à ce fait qui fait passer les premiers au dernier. C'est l'ordre dans lequel eh bien, nous nous mettons en marche. Et c'est une vraie libération. Parce que l'importance de l'ordre est fondamentale et primordiale. La première chose qu'il faut qu'on considère, c'est le caractère de Dieu. La bonté de Dieu. Et méditer sur la bonté de Dieu. Se réjouir dans qui est Dieu. Ça doit être le fondement de tout service. Et puis, quand on grandit un petit peu dans cette connaissance du caractère de Dieu, de la bonté de Dieu, on discerne la motivation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu... Comment Dieu agit? Et on l'a vu, il agit par grâce. Dieu est un Dieu généreux, un Dieu gracieux. Et ça nous invite à aller à l'étape suivante, qui est simplement de dire, ben, un maître comme cela, bon, gracieux, ben, j'ai envie de le suivre, n'est-ce pas? C'est mon engagement. Et puis, dernière étape, notre réponse logique, nous dit Romains 12, c'est de servir ce maître. C'est notre attachement au Seigneur et notre manière de le servir. C'est notre motivation qui sera récompensée, jamais la quantité de travail effectuée. On arrive à la fin, mais il faut quand même noter que celui qui est allé chercher l'ouvrier de la dernière heure, bon, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça quand même, ça se passe encore aujourd'hui, hein, d'embaucher des gars comme ça, en passant, ça se passe au kebab, hein, pour aller faire les façades ou le carrelage, hein, avec les Turcs. Mais enfin, franchement, le gars, pendant toute la journée, 4 fois, il n'a pas été vu par le gars qui est venu avec la camionnette. Enfin, moi, je pense qu'il s'est planqué. Hein. Donc, il y a ce maître quand même qui veut vraiment aller chercher celui de la dernière heure, mais qui néanmoins, celui de la première heure, l'appelle « mon ami ». Quand il répond à ses reproches. Mais ce qu'on voit dans cette parabole, c'est justement les attributs et le caractère de Dieu. Il y a 3 questions que pose le maître de la maison. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux? Dieu est souverain, n'est-ce pas? On le dit, on le croit. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Je veux donner à celui qui est le dernier, autant qu'à toi. Mais si Dieu était seulement souverain, il pourrait aussi, du coup, être un tyran, un dictateur. Alors, il faut continuer dans les attributs de Dieu. Et on voit avec cette question, ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier? En fait, Dieu donne ce qui est juste. Dieu n'est pas seulement souverain, il est juste. Dieu donne ce qu'il a promis. Et puis, la dernière chose, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Dieu est bon. Souverain, juste et bon. Et c'est ça qui nous permet d'avoir cet équilibre avec ce Dieu absolument parfait. Et maintenant, on arrive à des choses peut-être un peu plus tranchantes, parce que notre service peut présenter un danger. Pour ceux qui ont fait le ref avec moi, ils savent que première chose qu'ils doivent dire aux anciens en rentrant à l'église, c'est « j'arrête ça », alors que tout le monde les a envoyés en pensant qu'ils allaient faire plus. De manière très subtile, notre service peut nous éloigner du maître quand il prend la place de notre relation. 2 citations. ce livre de Kenneth Boa, la mentalité de l'homme affairé d'aujourd'hui veut nous faire privilégier le faire sur l'être. Le chrétien est encore soumis à une autre tentation, celle de faire passer les œuvres chrétiennes avant le Christ et de favoriser ainsi l'activité pour le Seigneur au détriment de l'intimité avec lui. Et puis un de mes auteurs favoris, Oswald Chambers, méfiez-vous de tout ce qui peut prendre la place de votre soumission absolue à Jésus-Christ. Le pire des usurpateurs est le service pour lui. Alors, revenons à cette question du jeune homme riche. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus ne répond pas avec les 5 premiers commandements. Il va sur le terrain du jeune homme riche. Tu veux savoir ce que tu veux faire ? Je vais te le dire. Un seul est bon. Laisse tout. Suis-moi. Tant que nous pensons ou que nous raisonnons avec l'idée du faire pour gagner la vie éternelle, alors le prix à payer, il est impossible. Coup du chameau avec l'aiguille, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, j'ai un chameau, un miniature, mais quand même suffisamment gros avec une aiguille. Jamais réussi. Et les disciples ont très très bien compris l'histoire du chameau, parce qu'ils disent, qui donc peut être sauvé ? Nous, on a tout quitté pour te suivre. Merci Pierre de poser ces questions. Pierre, le disciple, l'apôtre. Ce à quoi Jésus répond, à vous qui m'avez suivi. Il ne dit pas à vous qui avez tout quitté. Il dit à vous qui m'avez suivi. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom et ne gagnera pas, mais héritera la vie éternelle. Le problème, c'est qu'on peut servir sans suivre. Quitter, mais pas à cause de son nom. Et les premiers sont plus enclins à cela que les derniers. Alors, pour le coup, c'est vraiment la conclusion. Waouh, c'est gros, hein ? Avant de servir, il faut venir. Et pour servir, continuer à suivre. Deux images que je vous laisse. Venez à moi. Venez à moi. Et ça prend peut-être un écho un petit peu différent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, par le service peut-être. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug, ce n'est pas synonyme de repos. Le joug, c'est un engin de torture pour tirer une charrue. Mais, vous savez, c'est comme ça qu'on apprenait à un jeune bœuf à porter le joug. On le mettait à côté d'un vieux bœuf et on les attachait avec le joug. Et le vieux bœuf sortait de l'étable tranquille et toute la journée, tranquillement. Alors le jeune, il dit, attends, à ce rythme-là, on n'a pas fini, quoi. Ce soir, il y a un match à la télé, je vais te montrer. Et toute la journée, le jeune, il tire. Et à la fin de la journée, il a mal au cou. Alors il dit, bon, écoute, demain, et toute la journée, il va freiner, tu vois, il va se laisser. Et il a mal au cou. Jusqu'au moment où il comprend que la meilleure manière de tirer la charrue avec un joug sur les épaules, c'est de marcher à la même vitesse que le vieux. Et Jésus dit bien, prenez mon joug. Il n'est pas en train de dire, prends un joug. Il dit, prends mon joug. Et c'est comme ça qu'on apprend à trouver le repos dans le service. Deuxième image, on pourrait faire un message à lui tout seul là-dessus. Marthe, deux fois Marthe, parce que je pense que la première fois, elle n'entend pas. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. On divise une église là-dessus, hein, les Martes d'un côté et les Maries de l'autre. Hein. Parce que qu'est-ce qui va faire le repas pour entre elles cet après-midi, par exemple, hein? Ah oui, heureusement qu'il y a des Martes. Hein. Parce qu'avec vous, là, et voilà, ça y est. Une seule chose est nécessaire. Merci, McDo. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. On ne peut pas dissocier notre service de notre relation. Il n'y a pas de bon service si nous le déconnectons de notre relation au maître. Alors, ne laissons pas notre service pour Dieu prendre la place de notre relation avec Dieu. On peut prier, on a le temps encore ? Seigneur, tu sais tout ce qu'il y a dans notre tête, tu sais tout ce qu'il y a dans notre cœur, tu sais ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie que nous trouvions auprès de toi cette joie, cette paix que toi seul tu peux nous donner. Parce que auprès de toi, tout est grâce, tout est bonté, tout est générosité. C'est la voie que tu as choisie pour nous, Seigneur, de nous précéder, de nous accompagner, de nous qualifier. Et Seigneur, garde-nous de croire que nous pouvons par nous-mêmes accomplir quoi que ce soit. Garde-nous de croire que notre service peut nous faire, d'une manière ou d'une autre, être plus apprécié de toi. Seigneur, garde-nous dans cette reconnaissance profonde de cette faveur imméritée que tu nous as faite en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place et en nous rendant aptes à te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.